Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous, avec le réveil culturel. Si vous nous écoutez en direct à la radio, sinon, vous le savez, il y a l'option de la réécoute en ligne ou de l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un auteur plutôt très rare, Kamel Khelif, auteur donc de bande dessinée, qui vit à Marseille, très coté dans quelques galeries londoniennes ou américaines, parce qu'il est par ailleurs dessinateur et peintre, mais assez peu connu, il faut le dire, ici en France. Il vient de sortir une bande dessinée aux éditions Otium, qui a pour titre « Et même si c'est la nuit », une déambulation dans une ville qu'on reconnaît très vite quand on connaît Marseille, même si elle n'est jamais nommée, une déambulation très mélancolique et une déambulation nocturne jusqu'au bout de la nuit. Kamel Khelif, l'invité du Réveil culturel ce matin.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Même si c'est la nuit. Étrange titre. Très beau titre, mais bizarre. C'est le titre de votre dernière bande dessinée qui sort chez Otium Éditeur. Kamel Khelif, bonjour.
Bonjour Toufik Hakem.
C'est une déambulation. Un homme traverse de nuit sa ville. Et donc c'est la traversée d'une ville, c'est la traversée d'une nuit. Cet homme est marseillais. Jamais le nom de la ville n'est cité, mais celles et ceux qui habitent la cité phocéenne vont tout de suite s'y retrouver, puisque le nom des rues est exact. Qui est cet homme qui quitte son appartement et qui décide d'aller dans le quartier arabe et central de Marseille, c'est-à-dire Belzunce? Cet homme, il est poursuivi par des souvenirs, il voit des choses réelles, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans quel état il est cet homme et pourquoi cette déambulation nocturne?
Étrange expérience que la réalisation de ce livre. D'abord parce qu'elle renvoie à mon premier livre « Homicide » qui a été publié en 1995 et qu'on retrouve les mêmes similitudes. Un homme qui quitte son appartement et qui va traverser la nuit. Et on retrouve aussi d'autres éléments comme le cabaret clandestin, la musique présente, les rues de Marseille, et qui à la fin donc revient à son domicile. Cet homme, c'est un artiste donc un solitaire aussi, ne pouvant plus dessiner, il va quitter son appartement et traverser diverses situations, rencontrer divers personnages, mais un peu comme s'il était témoin de tout ça, et pour faire du lien avec toutes ces situations, très différente.
Et il est poursuivi aussi par ses propres souvenirs.
Il est poursuivi par ses propres souvenirs, mais les souvenirs, je m'en sers un peu comme des éléments autobiographiques qui me servent un peu de levier auquel j'y greffe des choses que j'invente. La réalité est l'étrange expérience, parce que la réalité dessinée, la réalité vécue, durant ces deux années, il n'y avait absolument aucune différence. Dès l'écriture du texte, en novembre 2016, qui a duré à peu près 4 mois, et j'avais envie de faire un livre. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait un. Un livre un peu comme une lettre qu'on envoie à des amis, et bien sûr, dont on n'attend aucun retour. Très rare, les retours.
Cet homme, c'est vous ? C'est une bande dessinée introspective, même si c'est la nuit, pour reprendre le titre.
Oui, je voulais quelque chose qui aille de ce côté-là, c'est-à-dire de plutôt singulier, à partir d'éléments personnels, autobiographiques.
Comme vous, cet homme a quitté son pays d'origine, si tant est qu'on puisse appeler cela un pays d'origine, puisqu'il a si peu connu l'Algérie et Alger, qu'il quitte en 1964 alors qu'il a 5 ans. Ça fait donc près de 55 ans qu'il vit dans cette ville, Marseille. Mais cette ville d'ailleurs n'est jamais nommée dans votre récit, dans votre bande dessinée. Le personnage non plus n'a pas de nom.
Non, il n'a pas de nom, la ville n'est pas nommée, elle est montrée. peut-être à cause du manque de distance avec cette ville qui fait partie complètement de lui, d'où la difficulté de peut-être de la nommer.
Diriez-vous la même chose pour ce qui vous concerne? Parce que vous parlez de vous dans cette bande dessinée, que vous avez du mal à nommer le personnage qui déambule du début jusqu'à la fin de cette histoire?
Sans doute. Et puis, on est toujours nommé par les autres. Pareil qu'on peut apprendre son propre nom. Je crois que c'est dans la Bible où on dit « Tu connais le nom qu'on t'a donné, mais tu connais pas ton véritable nom. » Peut-être à cause de ce manque de distance avec moi-même ou avec... surtout avec la ville, la difficulté de la nommer. Mais c'est aussi pour dire que ça pourrait être n'importe quelle ville du bord de mer dans laquelle d'autres gens pourraient se reconnaître.
Cette histoire se passe en hiver. C'est très étrange. Généralement, Marseille... La ville de Marseille, l'imagerie de Marseille est associée au soleil, à la mer, et là on est dans une ville balayée par le froid. Seuls quelques marginaux, quelques pauvres, défient le froid et sortent la nuit. C'est ces personnages qu'on va rencontrer à travers le narrateur, celui qui décide justement de faire cette grande déambulation dans la ville la nuit.
Oui, d'un bout à l'autre de la nuit. Ça se passe l'hiver parce que tout simplement j'ai commencé à écrire ce texte en novembre 2016 et j'avais tout simplement envie de raconter une histoire singulière, poétique, qui se situe un peu sur un autre terrain que celui de la réalité, mais où la réalité et le rêve, d'où la nuit peut-être, se mêlent, se mélangent, se rencontrent et ne forment plus qu'une réalité mais qui est autre. Dès la première phrase de cette histoire, donc, il cessa de dessiner après une journée à séparer les ombres et les lumières. Et pour moi, c'est peut-être même la définition de la peinture, séparer les ombres et les lumières. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, tout au long de ce travail plastique. Et il cessa de dessiner lorsqu'il s'aperçut que la clarté du jour avait disparu de la surface de la feuille et se confondait à présent à l'obscurité du dessin. Et donc, la clarté du jour, c'est pour rappeler le réel qui vient du dehors et qui vient se poser sur la surface de la feuille. Et la surface de la feuille, c'est le dessin, donc la subjectivité, le rêve. Comme si, dès le départ, j'avais inconsciemment, bien sûr, posé un préalable à ce qui allait en découler à la fois dans le texte et à la fois dans toutes les images, où les images sont à la fois très réalistes, très photographiques, parce que j'aime bien cette notion et qui est née en moi dans la petite enfance, quand j'ai commencé à dessiner à l'âge de 7 ans, et que mon identité de dessinateur a commencé à ce moment-là, et qu'on me reconnaissait en tant que tel. J'avais très vite appris à estomper au crayon des visages que je faisais. J'aimais beaucoup cette idée de, non pas de recopier la réalité, mais comme si le dessin devenait lui-même la réalité, peut-être plus réel que la réalité elle-même. J'aime cette idée de faire semblant que c'est vrai. Comme si cette histoire, en la traitant de cette manière-là, techniquement, faire croire que c'est vrai. Qu'elle a été réellement vécue.
Pourquoi cet homme est-il si solitaire ?
Cet homme est solitaire parce qu'on comprend qu'il est dessinateur. Toute la difficulté pour lui, et pour moi aussi dans la vie, c'est comment faire avec le réel, puisque le dessin nous sépare des autres. La difficulté, c'est de trouver un équilibre entre la réalité sociale et la réalité vécue solitairement, dans un travail personnel. Comment trouver un équilibre entre les deux?
C'est-à-dire, comment raconter le monde quand soi-même, on est isolé de ce monde?
Oui, et c'est ça le paradoxe. Pour le raconter, il faut s'isoler. Il faut avoir une certaine distance. Certains, on le voit dans l'art brut, dans l'art singulier, ils prennent une telle distance qu'ils ne reviennent plus. Dans ce monde de réel et social.
Le personnage de votre bande dessinée, même si c'est la nuit, il revient d'où ? On le voit, il ne peut plus parler à la femme qui est dans son appartement, C'est-à-dire toute tentative d'engager une discussion s'avère infructueuse, c'est le moins que l'on puisse dire. Il quitte cet appartement, il écoute une musique qui sort de chez la voisine. C'est un fado, on est dans une note triste. Le noir et blanc, comme si c'était une suite de tableaux, vont nous emmener avec lui à traverser une ville balayée par le froid, balayée par la pluie, une ville où des événements extraordinaires vont se passer sans troubler sa déambulation, et puis pour arriver tout ça dans un quartier de nuit où se retrouvent dans des bouges, dans des cabarets, des travailleurs émigrés, mais même quand il porte son regard sur les travailleurs émigrés, on sent que s'il a plein de choses à partager avec eux, il n'est pas de leur monde non plus.
Non, il est ailleurs. Il n'est que témoin de ce qu'il voit. Étranger à la vie, étranger à tout ça. Mais c'est un peu un raccourci de dire que c'est du noir et blanc. C'est-à-dire que le blanc, c'est celui de la feuille, que je ne choisis pas. Et le noir, c'est celui que j'achète. Et moi, ce que j'invente, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et métaphoriquement, on peut dire que le blanc, c'est la naissance, le noir, c'est la mort, et entre les deux, c'est la vie. C'est ce que j'essaye, avec ces deux couleurs, d'y mettre de la vie et dans ces images-là.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Même si c'est la nuit, le titre de la dernière bande dessinée de Kamel Khelif. Ça faisait longtemps d'ailleurs que vous n'aviez pas sorti de bande dessinée. Hein. Vous aviez eu toute une période où vous étiez plus dans le dessin, dans la peinture, dans le monde des galeries. Vous étiez d'ailleurs plus connu à l'étranger qu'en France, qu'à Marseille même. Mais revenons à l'histoire de « Même si c'est la nuit ». Les états d'âme de cet homme qui déambule, qui quitte l'immeuble où il vit dans un quartier plutôt délabré du centre de Marseille, où il écoute du fado, où il va arriver dans un bouge où il y a des filles, des travailleurs émigrés, mais aussi des flics, le monde de la nuit, où là on écoute le fado de l'autre côté de la... enfin le fado algérien, c'est-à-dire le chaabi, où vous rendez hommage à un grand chanteur. Ces musiques-là évoquent plutôt la nostalgie. Il a la nostalgie de quoi, cet homme ?
Je ne sais pas s'il est nostalgique, mais je dirais qu'il est plutôt mélancolique. Il est mélancolique parce que c'est sans doute sa position même de dessinateur qui l'amène à cette mélancolie, à être étranger aux autres et à ce monde. Et c'est cette position... qui pour moi définit même l'artiste, cette distance qui amène à la mélancolie. Parce que l'artiste dans notre société nous fascine, il enfreint les tabous, sa liberté, mais dans cette provocation, dans cette position, il ne peut être que seul. Et la figure qui, dans la peinture, la plus représentative, c'est Van Gogh, bien sûr. Quand on dit il faut souffrir pour peindre, il faut souffrir, je ne crois pas du tout. C'est pas la souffrance, elle vient de cette position sociale, pas de ce qu'on a dans le ventre ou dans la tête, du tout. Non, ça, j'y crois pas du tout.
Kamel Khelif, il y a aussi une belle description de ces bars de nuit pour travailleurs immigrés à Marseille.
Alors, le bar dans lequel il se retrouve, je l'ai intitulé « Le bar du hasard » et le patron du bar s'appelle Lazare. Puisque d'un côté d'une rive, le hasard veut dire l'aléatoire et de l'autre côté, la chance. Est-ce que c'est la chance ou l'aléatoire qui, dans ce bar, va l'amener à rencontrer une femme solitaire qui va lui décrire ses autres femmes qui fut un moment donné des femmes qui lui ressemblaient? Et on va entendre une première chanson chantée par une chanteuse de fado qui n'a rien à voir avec le groupe de Chaabi, et puis une seconde chanson chantée par Amar Zahi, qui était un immense artiste, un immense chanteur, qui a beaucoup innové dans cette musique-là. La musique Chaabi, c'est la musique d'Alger et aux alentours d'Alger.
Oui, c'est un peu le rebetiko d'Alger, hein, c'est comme le fado au Portugal. Mais c'est très étrange parce que vous rendez hommage à Amar Zahi, ce grand chanteur Chaabi qui avait la particularité de n'avoir jamais quitté sa ville et de refuser de quitter sa ville. Il n'avait même pas de passeport, il n'a jamais eu de passeport. Et là, vous le transposez à Marseille, dans un bouge marseillais fréquenté par des marlous de la ville et surtout par beaucoup de retraités parmi les travailleurs immigrés algériens.
Mais c'est ce que permet l'art justement et que ne permet pas la réalité. Je peux le déplacer et le mettre dans un bourg et dans un cabaret clandestin. Cabaret clandestin qui renvoie aussi à quelque chose de Marseille où tout est en dessous, refoulé. On le voit et on le vit dans une ville aussi vieille, il n'y a pas de monuments, il n'y a pas beaucoup de traces du passé. Beaucoup de choses culturelles, et en particulier qui concernent l'immigration, sont toujours en dessous, clandestins. Mais aussi, quand on regarde le lieu de ce cabaret, c'est aussi un clin d'œil à tout ce cinéma que j'ai beaucoup aimé des années 20, 30, M. le Maudit, le Docteur Mabuse. Et j'ai pensé aussi, sans doute, durant la guerre d'Algérie, à ces réunions clandestines du FLN. C'est un peu un clin d'œil à tout ce monde-là obscur, souterrain, un peu aussi comme les aveugles qui tirent les ficelles dans les romans d'Ernesto Sabato, qui contrôlent la ville. C'est tout ça qui est sous-entendu.
L'autre paradoxe de votre bande dessinée, Kamel Khelif, c'est une déambulation. Donc on a l'impression qu'on va prendre le large. Hein. Et pas du tout. Toutes les personnes qu'on rencontre ont l'impression d'être enchaînées à cette ville ou à leur destin. Oui, leur destin est lié intimement à cette ville. Et parmi ces personnages, par exemple, quand on est dans ce bar fréquenté et par les policiers, et par les filles de joie, et par les travailleurs émigrés, il y a ce personnage de « je m'en vais demain ». C'est son nom, ça ?
Je veux partir.
Oui, je veux partir. Il s'appelle « Je veux partir oui. ». C'est quelqu'un qui rêve de repartir dans son pays d'origine, mais qui est tous les soirs assis à la même place.
Oui, c'est à partir de quelqu'un que j'ai rencontré dans ce lieu même qui me sert de cantine, où je me retrouve assez souvent, soit seul, soit avec des amis. Et c'était quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette ville avec la promesse d'une rencontre avec une fille de l'autre côté de la rive. Et puis cette fille, quand il a rejoint ici, elle a foutu le camp. Je ne sais pas les raisons. Mais c'est aussi ce passeport bourré de documents et de photos. C'est une photo qui me montrait où il était dans un autre état de santé, où il se portait beaucoup mieux avant cette séparation. Et c'est aussi à ce moment-là ma propre angoisse avec mon passeport, puisque j'ai toujours une carte de séjour et la condition pour renouveler la carte de séjour, c'est d'avoir un passeport en cours de validité. Oui, c'était une situation assez angoissante, qui a été réglée.
Et je ne comprends pas, Kamel Khelif, selon votre bio officiel, vous êtes né en 1959 à Alger, mais vous êtes arrivé en France en 1964. Ça fait 55 ans. Et vous n'avez jamais demandé la nationalité française ?
Non, je ne l'ai jamais demandé. Par fainéantise, j'aime pas la paperasse. J'aime bien rester avec ce statut-là. C'est pas pour une question d'identité. Ça, j'ai réglé ça à 20 ans. Je sais qui je suis.
C'est-à-dire, vous vous dites, je suis Marseillais, je suis Français, je suis Algérien, je suis migré. C'est quoi votre identité, tiens, Kamel Khelif ?
Je suis dessinateur. Quelqu'un qui vit ici est pris, comme tout un chacun, avec l'énigme de soi. Sur les papiers, je suis Algérien. Mais bien sûr, ça me suffit pas. Mon identité de dessinateur est beaucoup plus forte que ces identités sur papier. Et puis, quelque part, ça nourrit aussi ma marginalité. Peut-être que j'ai pas envie de ressembler aux autres. J'ai passé ma vie à faire tout le contraire des autres. Et c'est peut-être le dessin qui m'a obligé à cela. dans mes goûts, dans mes idées, dans la vie quotidienne, dans mes vêtements, dans le dessin, dans la peinture. Est-ce que je fais du dessin? Est-ce que c'est de la peinture? Toujours ce besoin de, malgré moi, toujours d'aller ailleurs et jamais de rester dans des dans un enfermement, qu'il soit artistique, qu'il soit social, idéologique, ethnique, essayer d'être toujours ailleurs.
Elle est d'une beauté incroyable, votre bande dessinée, parce que on se met à toucher les pages pour se dire, ben, qu'est-ce qu'il a utilisé? Est-ce que c'est des pinceaux? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est des calques? Ce noir, qui peut être profondément noir, reste néanmoins très beau, parce que vous restituez très bien les rues, les bâtiments, les monuments de Marseille, l'atmosphère aussi dans les bars clandestins et les cabarets ouverts très tard la nuit. Et pourtant, ça faisait, comme je vous le disais, très longtemps que vous n'aviez pas fait de bande dessinée, comme si le dessin, la peinture, s'était imposé d'une manière définitive. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la bande dessinée avec cet album, même si c'est la nuit?
Moi, ça faisait 2 ans que je travaillais comme ça sur des dessins libres que j'exposais et en même temps qui me permettent de mener des recherches graphiques qu'ensuite je reprends pour les intégrer dans le travail d'un livre. Ce que ne permet pas le travail d'un livre. Le travail d'un livre, d'une bande dessinée où on a l'impression de rentrer dans un tunnel, mais il faut qu'il y ait une homogénéité de la première page jusqu'à la dernière. Et puis, improviser tous les jours. L'inspiration, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'aime au contraire travailler en improvisation, comme d'autres travaillent en musique, comme ça, c'est-à-dire établir un dialogue avec la feuille. Quand je pars d'une feuille blanche, la feuille blanche, c'est pas le vide, c'est le trop-plein. Il y a trop de chemin à emprunter. Donc je jette dans un premier temps de la matière, ce qui limite les possibilités, et j'ai quelque chose avec lequel je peux démarrer. Et ce va-et-vient, ce dialogue entre la feuille et moi, où j'arrive à créer une image, où à la fin je ne sais plus ce que moi j'ai inventé et ce que la feuille m'a donné. Et j'aime bien cette démarche-là, qui est beaucoup plus, où j'impose pas une idée.
Ce qui n'est pas le cas pour la bande dessinée.
Et puis alors quand je travaille comme ça, c'est fatigant un peu de repartir tout le temps avec ce hasard. Il y a tout de suite un besoin de faire un livre, de se retrouver dans un tunnel un peu plus ou moins hermétique, dont on ne sait pas ce qu'il y a au bout, bien sûr, et c'est ce qui est intéressant. Donc, accepter une aventure, là aussi. Une aventure et un voyage, qu'il soit dans un dessin ou dans un livre. Et puis, quand je fais un livre, quand ça dure 1 an, 2 ans, il y a tout de suite ce besoin, à nouveau, de faire des dessins libres. Il y a un va-et-vient sans arrêt comme ça, ben, où je m'ennuie pas. C'est peut-être ça qui amène certains dessinateurs de bandes dessinées à abandonner l'ennui. Et puis un travail pour l'édition. L'édition, on sait bien, faire des livres d'auteur nourrit pas son homme du tout. Ce livre-là, c'est un luxe que je me suis payé pendant 2 ans de faire ce travail-là qui ne me rapportera rien du tout. Pas grand-chose.
Même si c'est la nuit, alors ce 29 mai, vous serez en dialogue avec Mehdi Sharef autour de votre bande dessinée Kamel Khelif. Ce 29 mai, ça sera à 16h au magasin. C'est à Marseille, c'est l'avenue de la République. Et puis à partir du 1er juin, et pour 3 mois, une exposition à l'abbaye d'Aubrive, c'est dans la Haute-Marne. Vous allez exposer toutes les planches de cette bande dessinée. Et alors, justement, quel est votre statut aujourd'hui? Parce que, en tant que dessinateur, vous avez été repéré, reconnu par des galeries de Londres, par des revues américaines. En France, vous restez un auteur très underground, comme on dit. Comment vous vivez cela?
Je le vis très bien. J'en souffre pas. L'important pour moi, c'est de faire continuer cette roue en moi qui a commencé dès l'âge de 7 ans et qui par moments a grincé. La vie m'a appelé à faire autre chose, à travailler, à m'éloigner un peu de ça, mais Depuis cet âge-là, je me suis toujours senti dessinateur, même quand je ne dessinais pas. Pour le reste, si ça vient du dehors, tant mieux. Si ça vient pas, j'ai assez de force, je crois, depuis à peu près maintenant, depuis 90, que j'ai décidé de ne faire que ça, et c'est une chance inouïe.
Kamal Khelif, et même si c'est la nuit, c'est édité chez Otium. Et si vous voulez avoir une idée du trait de Kamal Khelif, si vous ne connaissez pas son travail, quelques cases, quelques images sont disponibles à la page du Réveil Culturel sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Jean-Michel Bernot.